situations sécuritaires au nord Kivu. Des journées villes mortes ont été observées durant toute la semaine dernière dans les territoires et villes de Beni à la demande des coordinations des sociétés civiles. Cela à la suite de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Cette structure a également appelé au non-paiement des taxes jusqu'à la fin de l'insécurité dans la zone. Quelle lecture faire de cette situation? Nos invités sont Général Jean Bayo, commandant second des forces de la MONUSCO. Bonsoir Général Jean Bayo.
Bonsoir Général Jean Bayo.
Bonsoir.
Voilà, Teddy Catalico, bonsoir.
Oui, bonsoir mon frère.
Vous êtes président de la société civile du territoire de Beni. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Robert Ndombi, conseiller au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Entre-temps, à tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les activités ont repris depuis hier lundi à Bénéville et territoire après 5 jours des journées villes mortes. La société civile protestait contre un énième massacre civil à Mapiki et Sabou, deux localités du secteur de Benimbao. Cette structure citoyenne appelle le Premier ministre et les hauts responsables des FRDC d'effectuer une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Bénéville et territoire. Martial Papi Moukeba pour les détails.
Boutiques, magasins, petits commerces, banques, écoles et institutions universitaires ont rouvert depuis hier lundi à Bénéville et territoire. Ceci après 5 jours des journées villes mortes sur appel de la société civile pour protester contre la recrudescence des massacres des civils dans la zone. Cependant, cette structure citoyenne vient de décréter les non-paiements des taxes par la population. Gilbert Kambalé, président de la société civile de Bénéville, appelle le Premier ministre d'effectuer une mission d'évaluation sécuritaire à Beni pour mettre fin au massacre des civils.
Le Premier ministre, comme responsable, comme parent, il ne peut pas continuer à voir que la population congolaise continue à être décimée. Il a envoyé le vice-premier ministre et dès qu'il va lui faire rapport, je crois qu'il ne pourra pas rester dans des bureaux climatisés au moment où la population est en train de périr ici. Et donc nous l'invitons. Mais aussi les chefs d'état-major, ministre de la Défense, tous nous les attendons à Beni pour mettre fin à la situation d'insécurité à Beni.
Cet appel de la société civile intervient une semaine après celui du gouverneur du Nord Kivu. Gilles Paloukou avait invité le Premier ministre à se concentrer sur la sécurité à l'Est pour stopper les cycles de violence et les massacres des civils à Beni. Selon la société civile, plus de 500 personnes ont été massacrées à Beniville et territoire depuis novembre dernier. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Teddy Catalico, vous êtes président de la société civile du territoire de Beni. Dites-nous où en êtes-vous aujourd'hui avec ces mouvements des journées villes mortes et cet appel à ne pas payer les taxes. Où en sommes-nous aujourd'hui?
Oui, bonjour André. Avant toute chose, nous saluons nos co-débatteurs à cette émission Dialogue intercongolais. Mais aussi, nous saluons tous les auditeurs de la radio Okapi à travers toute la République démocratique du Congo ainsi que le monde entier. En fait, je suis allé, comme vous êtes en train de le dire, au niveau de la société civile. La mesure reste bel et bien, comme cela a été dit dans la dernière réunion où nous avons passé à revue les différentes recommandations remises à la délégation du vice-premier ministre qui est passé dernièrement à Beni. Et c'est sûr, c'est sûr que toutes les organisations de la société civile ont souhaité effectivement, comme cela a été stipulé dans les cahiers de charges qu'on a remis à la situation où nous avons souhaité que la ville et le territoire de Beni soient déclarés comme une zone sinistrée à dépit de tout ce que on est en train de vivre depuis 2010 et jusque maintenant. Vous savez que la population de la ville et du territoire vit à 98% de l'agriculture. Les populations sont chassées de leurs champs et tous se retrouvent dans les grandes agglomérations comme Oicha et Beniville. Donc voilà pourquoi la société civile a émis le vœu de voir le gouvernement prendre cette décision comme elle avait été prise à Sota, à Rutshuru, après la libération du territoire. L'histoire de Rutshuru par les FARDC à Chassane M23.
Alors, Teddy Kataliko, comment se présente la situation sécuritaire aujourd'hui, au moment où nous parlons à Beni, territoire et ville, bien sûr?
Oui, partant du contexte du moment, la situation sécuritaire à territoire et à ville de Beni reste toujours très précaire. Elle est caractérisée par des massacres, comme vous êtes en train de le suivre, des massacres à grande échelle où des populations civiles sont tuées à la hache et à la machette. Jusqu'à ce jour, nous comptons plus de 419 personnes tuées. Et cela du 2 octobre 2014 jusqu'à nos jours, dont le dernier cas à date du 18 mai, donc c'est-à-dire il y a cela 48 heures où on a retrouvé le chef de localité de Moussoukou décapité à la machette, mais aussi jeté à pleine forêt de Moussoukou. Deuxièmement, on est en train de vivre des enlèvements des civils dans différentes agglomérations. Vous vous souviendrez que depuis 2010 jusqu'à nos jours, on a eu à documenter plus de 837 cas de personnes enlevées, et cela par nos structures de la société civile. Troisièmement, on déplore des incursions sur les sols congolais, des éléments armés à provenance de l'Ouganda voisin. Allô?
Oui, Teddy Kataliko, vous êtes en ligne. Allez-y, s'il vous plaît.
Bon, oui, donc j'étais en train de dire que, troisièmement, on dénonce des inquiétudes sur le sol congolais par des éléments armés à provenance de l'Ouganda voisin. Depuis le 21 avril 2015 jusqu'à ce jour, on compte plus de 7 entrées à partir du district de Bundibujo et de Kasese, en passant par les massifs de Rwenzori pour se diriger dans la vallée de la rivière Semuliki, appelée parc national de Virunga. Quatrièmement, nous avons observé des attaques ciblées contre les FARDC les deux dernières semaines à Kokola, mais aussi des attaques ciblées sur contre les patrouilles militaires des casques bleus tanzaniens de la MONUSCO à Moukoko.
Voilà
comment la situation se présente, et cette situation est orchestrée par un groupe armé ougandais, et ici je cite les ADF Nalu, présents sur le sol congolais depuis septembre 1995.
Alors Teddy Kataliko, en lançant ces mouvements des villes mortes et de non-paiement des taxes, voulez-vous dire par là que vous avez tout essayé sans solution et que ce serait la solution ultime, ce que vous faites?
Oui, en fait, Michel Allé, ici nous dirons que malgré les multiples opérations qu'on a lancé contre ces groupes armés depuis 2012, là je parle de l'opération 2002, là je parle de l'opération Keba 1, à 2005, il y a eu l'opération la MONUSCO, l'opération conjointe MONUSCO FARDC, à 2010 les opérations Rwenzori, et de janvier 2014 jusqu'à ce jour, les opérations Sokola 1. L'ennemi confirme une implantation dans une zone grise qui lui permet de survivre sans autant gagner une taille depuis plus de 20 ans et d'avoir été vaincu à plusieurs reprises, mais jamais maîtrisé, et ceci grâce à son dirigeant, Jamil, nous disons félicitations à ceux qui l'ont arrêté dernièrement à Tanzanie. Et ici, les ADF Nalu ont cessé d'être seulement un problème congolais ou ougandais pour prendre une dimension régionale, attaquer l'élément de la nébuleuse islamique radicale.
Merci.
En Afrique de l'Est. Donc, je voudrais ici quand même attirer l'attention de tout le monde que la nature de l'ennemi, apparemment, elle n'est pas comprise par
Merci.
Tout le monde, au niveau de la société civile, au niveau aussi des hommes politiques, mais aussi au niveau international.
T'as dit Catalico.
Réduire ce problème de cette nébuleuse aux simples affaires du territoire de Béni ou de la province du Nord-Kivu.
Merci. T'as dit Catalico. T'as dit Catalico.
C'est là que, au niveau de la société civile.
T'as dit Catalico. Voilà, je vous redonne la parole tout à l'heure. Oui, on a compris, vous parlez d'incompréhension de la situation qui prévaut à Béni, que ce soit au niveau de la communauté internationale, tant de la communauté internationale que de la classe politique. Général Jean Bayot, je me tourne vers vous. Vous revenez de Béni. Quel est le message que vous avez passé là-bas sur place?
Écoutez, je reviens, comme vous le dites, à l'instant de Béni, une nouvelle fois. Je me suis rendu sur les lieux des derniers massacres. J'ai entendu sur place la population qui est vraiment exposée à cette insécurité. Je me suis aussi rendu à Samboko, qui est à la frontière de l'Ituri, où cette population vit avec un problème humanitaire d'accueil, on va dire, de déplacés, qui sont dus aussi à l'insécurité. Mais j'étais aussi là-bas, bien sûr, pour coordonner nos opérations avec les acteurs congolais et au premier lieu les FRDC. Alors le message que je devrais passer, en fait, c'est que malgré effectivement ces dernières attaques qui ont eu lieu, malgré effectivement l'insécurité que ressentent les populations, il faut qu'ils soient vraiment informés que les opérations militaires actuellement menées contre les leaders d'ADF se poursuivent dans la bonne direction, que l'arrestation, comme vient de dire à l'instant M. Catalico de Djamil Mukulu, était un événement très important qui doit faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de fatalité à l'insécurité dans la région et que nous devons tous unir nos efforts pour ramener la paix dans la région.
Alors, Général, vous avez suivi Teddy Catalico qui dit, qui affirme percevoir que la communauté, que ce soit la communauté internationale, voire même la classe politique congolaise et la société civile de Béni ou la population de Béni, il y a des perceptions différentes de la situation qui prévaut à Béni, d'où les mesures adéquates ne sont pas prises pour mettre fin à l'insécurité.
Alors, moi, je le comprends très bien et je pense que pour les populations qui vivent cette insécurité au quotidien, ce qui compte au premier lieu, c'est que ces tueurs, ces gens qui rôdent autour de leur maison, autour de l'endroit où sont leurs enfants, leurs familles, effectivement, soient arrêtés et neutralisés. C'est ce qui compte le plus pour eux. Mais effectivement, la question est plus complexe, comme ça a été dit auparavant. ADF a 20 ans d'existence, ADF a des racines à l'extérieur de votre pays, ADF a également des soutiens en termes de recrutement, en termes financiers, qui doivent être aussi adressés d'une manière ou d'une autre. C'est très important de le faire. Et je pense qu'il y a, au niveau des États voisins, au niveau aussi même, pourquoi pas d'Interpol, puisque Djamil Mukulu a été interpellé, en fait, sous un mandat d'arrestation d'Interpol, il y a un certain nombre de choses qui se font et qui doivent être effectivement dynamisées. Mais ce que je comprends, c'est que la population de Béni, elle, n'attend qu'une chose, c'est que cette insécurité baisse, elle attend des arrestations, elle attend des choses concrètes, et de ce point de vue-là, je la comprends.
Alors, Général, l'insécurité ne baisse pas, les tueries continuent. Teddy Catalico en a fait allusion, y a fait allusion tout à l'heure. Certains observateurs ont l'impression que la communauté internationale, représentée par la MONUSCO, le gouvernement congolais, sont tous dépassés dans cette affaire.
Alors, moi, je pense qu'il faut... cette impression, on va dire, d'être dépassée doit être ramenée à un certain nombre de réalités. Effectivement, moi, je comprends très bien que les gens ne se satisferont pas d'une situation qui les amène pratiquement tous les soirs sur les routes, qui fait qu'effectivement, ils sont inquiets, qu'ils attendent quels seront les prochains morts, où seront ces prochains morts. Cette situation est effectivement intolérable, et je pense que nous avons une motivation extrêmement forte pour pouvoir y remédier. Mais il y a également un autre volet. L'autre volet, c'est que, comme je l'ai dit, à l'extérieur de votre pays, avec l'arrestation de Djamil Mukulu, avec la neutralisation par les FRDC de son numéro 3 à l'est de Béni, avec des opérations en cours et à venir qui cible directement le leadership militaire, on va dire, d'ADF, mais aussi avec des arrestations qui ont eu lieu sur un certain nombre de réseaux, il y a un certain nombre de choses qui se font. Et le message également qu'on doit passer, c'est que malgré effectivement ces tueries qui continuent, jamais ADF n'a été aussi affaibli, et c'est vraiment le moment de ne pas se diviser, c'est le moment d'unir nos efforts de manière à aller au bout de ce processus et arriver vraiment à une solution durable pour la région.
Général, vous dites que l'ADF a été frappée de plein fouet, mais visiblement paraît très percutant dans ses attaques.
Écoutez, c'est peut-être la réaction de tout groupe qui, acculé, on va dire, à... résiste avec encore plus d'agressivité. Je pense que c'est une réaction à laquelle on assiste certainement. Peut-être même que la perte de son leader principal fait que des chefs subalternes changent de tactique et peut-être même utilisent leur dernière force, on va dire, pour se préserver eux-mêmes et essayer de continuer ce combat. Mais c'est une chose effectivement que l'on doit regarder en face. Mais notre responsabilité, on va dire, à la tête, on va dire, de forces sécuritaires, et bien sûr en appui des autorités souveraines congolaises, et de continuer ce combat, et de renforcer notre synergie, et d'être encore plus efficace de manière à aller au bout de ce processus.
Alors avant que je ne donne la parole au professeur Arsène Mouaka qui nous a rejoint dans cette émission, Général Jean Bayo, il y a presque une semaine, nous avons fait une autre émission avec vous, toujours autour de la question sécuritaire à Beni. Depuis la dernière émission à ce jour, Général, qu'est-ce qui a été fait du côté de la MONUSCO pour soulager cette population de Beni qui est en train de vous suivre en ce moment?
Alors, le volet qui est important et qui n'est peut-être pas très visible effectivement pour les populations, c'est que il y a effectivement de la part des autorités de l'État que nous appuyons dans ce combat une stratégie qui est assez large, qui comporte un certain nombre de volets policiers, sécuritaires et autres d'ailleurs, et qui est absolument indispensable pour venir à bout de ce que ADF cause en termes d'insécurité dans la région. De manière pratique, puisque c'est ça qui vous intéresse, je pense que nous avons d'abord renforcé notre synergie en termes de recherche du renseignement qui doit nous amener effectivement à aller cibler directement les responsables de ces crimes, le leadership, on va dire, d'ADF. La MONUSCO elle-même est intervenue avec ses hélicoptères en appui des FRDC qui se battent à l'est de Beni, on va dire, contre ces groupes armés. Donc là, il y a un engagement direct de la MONUSCO qui s'est réalisé, concrétisé, et qui va se renouveler dans les jours à venir. L'autre point, c'est que nous avons actuellement un renforcement de nos capacités, aussi bien pour la brigade d'intervention, mais aussi avec des gendarmes sénégalais qui sont en cours de déploiement. La partie des gendarmes, qui sont en fait des policiers avec un caractère militaire, c'est un volet qui est extrêmement important aussi, parce qu'il y a un problème d'insécurité, et il y a un problème effectivement de rassurer les populations, d'être plus au contact de la population, et je pense que ces gendarmes onusiens, mais aussi africains, vont jouer un rôle important dans les jours à venir.
Merci Général Jean Bayo. Chers auditeurs et internautes, nous vous avons annoncé la participation de Robert Ndombi, conseiller au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Malheureusement, il est injoignable et pourtant il avait donné son accord de principe. Nous venons de prendre pratiquement à pied levé professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur, vous êtes élu de Beni. Comment vous percevez la réaction de la société civile de Beni territoire et ville qui appelle au non-paiement des taxes et qui a organisé des journées villes mortes? Professeur Mouaka? Voilà, la réalisation va tenter de retrouver le professeur Arsène Mouaka. Teddy Catalico, vous venez de suivre le général Jean Bayo qui parle de certaines mesures qui ont été mises en place pour soulager la population de Beni. Qu'est-ce que vous en pensez sur au niveau de la population? Est-ce que vous percevez toutes ces mesures?
Bon, en fait, au niveau de la population, si on est arrivé à lancer ces cris d'alarme, parce que la population est en fait perdue en voyant comment les civils sont en train d'être massacrés et qu'aucune mesure appropriée n'est prise pour une solution durable. Et c'est pour cela que on devrait quand même se poser des questions sur l'efficacité pour le moment de certains services, où on devrait passer plus à l'analyse des causes qui seraient à la base de cette situation. Je pense que ces éléments nous aideraient à trouver des solutions. C'est pour cela que dans notre communiqué, nous avons passé à une évaluation de la situation entre le gouvernement congolais et la société civile, mais aussi inclure la MONUSCO et le FARDC pour qu'on arrive à analyser les causes qui pouvaient être à la base de cette situation. Nous estimons qu'il est grâce à ça qu'on arrive vraiment à comprendre de la même façon la situation telle qu'elle se présente. C'est pour cela qu'on a parlé tantôt d'abord de la mauvaise compréhension de la nature de l'ennemi, mais aussi la compréhension sur le mode opératoire. Mais aussi, à un moment donné, on a vu quand même, on doit jeter des fleurs au FADC, qui, de janvier 2014 à juin 2014, nous avons vu les vaillants combattants FADC mettre l'ennemi à déroute. Mais à cela, on a dénoté quand même à partir du mois de juillet, et qu'il y a eu un certain relâchement dans les opérations. Et c'est la grande question que la population se pose. Qu'est-ce qui a été à la base de ce relâchement? Et pourquoi on ne veut plus relâcher les opérations de grande envergure pour essayer tellement que l'ennemi a changé des modes opératoires pour qu'on arrive à réadapter les modes opératoires à l'intervention au nouveau mode opératoire de l'ennemi.
Merci.
Voilà un peu les éléments auxquels nous fâchons pour qu'on arrive à trouver des solutions efficaces pour cette crise qui ne cesse d'embraser. Aujourd'hui, Beni, mais demain, c'est toute la province du Nord Kivu.
Merci.
Après-demain, c'est toute la République démocratique du Congo. Et après, ça va être toute la région d'Afrique centrale. Déjà, sans doute, ils sont en train de passer.
Merci.
Comme certains politiciens le disent, c'est une question des affaires du Nord Kivu. Ça écœure tout le monde.
Merci, Teddy Kataliko. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Arsène Mwaka, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Merci professeur et bonsoir une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut rappeler qu'on vous a pris à pied levé. Vous n'étiez pas programmé pour cette émission. Qu'à cela ne tienne, professeur, vous êtes élu de Béni. Vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur, la société civile de Béni, ville et territoire, a lancé des mouvements des journées villes mortes et a proclamé le non-paiement des taxes. Professeur, comment vous analysez cette situation par rapport à l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays?
Merci beaucoup et bonsoir à Alain, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi. C'est triste qu'on puisse assister à des situations de ce genre, d'autant plus que la République a suffisamment avancé. De plus en plus, nous avons constaté que le FARDC, notre armée, était capable du travail et qu'en quelques jours, quelques semaines, elle était capable de mettre en déroute l'ennemi. Et sur le même terrain, la même armée a été capable des exploits et la population a été capable d'aller au champ, à la chasse, et ainsi de suite, dans ses activités habituelles, sans vraiment suffisamment de problèmes puisque l'ennemi était maîtrisé. Et comme cela a été dit dans cette émission, il y a eu un moment de passivité, de relâchement, déplorable bien sûr, et qui a eu pour conséquence juste le massacre de la population à répétition. Et donc, nous déplorons cette situation. Alors que la population choisisse un monde ou un autre pour s'exprimer, il ne m'appartient pas de juger cette population. Mais je voudrais attirer l'attention de ceux qui ont la sécurité entre les mains, ceux qui ont le levier de la sécurité, pour dire qu'il ne faut pas laisser longtemps cette population s'exprimer, puisque quand nous sommes allés pour la première fois au début des massacres au mois d'août, nous avions beaucoup recommandé qu'on ne laisse pas la population se prendre à charge. C'est du connu dans cette province où à chaque fois qu'on veut faire nos espaces, ça se retourne finalement contre la population. Et là, on est à un début d'expression plus ou moins pacifique, mais qui risque de déboucher sur des violences qu'on va déplorer. Donc, le Nord Kivu a connu des cycles de violences au point où on sait lire ce qui arrive, on sait lire les signes des temps en avance. Et donc, qu'on commence par des journées ville-mortes et qu'on dise qu'on ne va plus payer l'impôt, et ainsi de suite, je ne pense pas que le gouvernement doit être à l'aise. Et donc, je pense qu'il faut parer au plus pressé pour que ces modes qui ne sont pas peut-être constitutionnels ne soient pas privilégiés, mais que la protection de la population soit au centre et que cette population soit contente de payer l'impôt et surtout que cette population soit fière de son armée et que le mariage qui était établi entre les FARDC et la population soit davantage consolidé.
Et donc, professeur, à observer ces mouvements, on peut dire que l'amertume de la population de cette partie du pays a vraiment atteint son comble.
Oui, on a un niveau inacceptable, puisque je pense que dans l'histoire de notre pays, il n'y a que la période de Léopold II où on a vu la population être mutilée. Et là, on assiste à des mutilations inédites. Et donc, on fend des têtes des gens, on éventre les gens, on coupe des têtes et on charcute la chair humaine. C'est de fleuves de sang qui coulent à l'est et qui n'émeuvent pas les dirigeants au niveau national, pas de deuil national, pas de communiqué du gouvernement pour dire qu'on déplore ceci, alors que à chaque fois qu'on assiste à des petits incendies ou à un train qui déraille, nous observons des deuils nationaux, mais là il y a un silence qui pousse les gens à s'interroger finalement. Et donc nous avons choisi de parler pour cette population. Je pense que notre rôle, c'est de porter haut sa voix et dire aux dirigeants qu'il y a une sorte d'injustice et de dire qu'il y a eu sur la radio Okapi, dans cette même émission, un porte-parole de la majorité présidentielle qui passe que, et pour dire que c'est des commerçants nandais qui font de telles choses. Et donc, je pense que c'est à la limite une insulte et c'est inadmissible.
Alors, professeur Teddy Katalico le disait également tout à l'heure, qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui pensent qu'il y a une différente perception de la situation sécuritaire à Beni selon qu'on est à Kinshasa ou sur place?
Bon, je pense qu'à Kinshasa, il y a des gens qui comprennent très bien cette situation, qui suivent les radios et qui trouvent que c'est anormal que des Congolais meurent jusqu'au nombre de plus de 350 et que l'on ne soit pas en mesure d'attraper un seul tueur pour identifier qui est finalement l'ennemi. Puisque pour bien faire la guerre, il faut connaître l'ennemi. Et donc, tant qu'on ne connaît pas l'ennemi, eh bien, on ne saura pas vaincre l'ennemi. Et par conséquent, les gens doivent avoir différentes interprétations, puisqu'il n'y a pas une interprétation ou une communication officielle. Et donc, c'est là que le gouvernement porte sa responsabilité, puisque ce qui importe pour le gouvernement, c'est de communiquer sur des chiffres macroéconomiques qui font plaisir aux institutions financières internationales et à l'extérieur. Et on n'écoute pas les chiffres macro-sécuritaires internes. Ça n'intéresse pas du tout le Premier ministre, le gouvernement. Et c'est là que le SOS que nous lançons pour dire la sécurité, c'est la première mission d'un gouvernement. Et donc on doit nous donner des chiffres sur la sécurité et nous donner des chiffres qui font la satisfaction de la population plutôt que de nous communiquer sur des chiffres qui font plaisir à des gens extérieurs qui ne sont que des chiffres théoriques.
Professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient des États-Unis.
Depuis New York, il n'est pas question de considérer que nos forces armées sont impuissantes face à l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Dommage que cette situation continue, hélas, à perdurer dans ce territoire, sans aucune solution efficace n'ait été envisagée, et nonobstant la visite récente du chef de l'État. Mon humble avis, cette situation déplorable trouve des appuis locaux parmi les hommes politiques, les infiltrés au centre des services de sécurité, le mort de bénissons de martyrs qui s'ajoute à la très longue liste d'autres tués congolais. La société civile n'a qu'à interpeller le gouvernement en place. Certes, il y en aura encore tant que la mauvaise gouvernance subsisterait au pays.
Alors, professeur, je reprends l'une de ces phrases, l'une des phrases de Joey Ntumba qui dit « Dommage que cette situation continue, hélas, à perdurer dans ces territoires sans aucune solution efficace. » Il y a beaucoup de solutions qui ont été envisagées, professeur. Pourquoi ces tueries ne s'arrêtent-elles pas?
Je voudrais d'abord dire que cette situation était maîtrisée jusqu'à une certaine date, je crois que vers juin. Tout était maîtrisé. Vous savez que nous allions vers la prise finale contre l'ennemi. Et à la grande surprise, l'ennemi a ressurgi. Donc moi, je ne suis pas de l'avis de l'auditeur qui dit qu'il n'y a pas de solution. Nous parlons de l'EDF, c'est un endroit bien identifié où se trouve cet ennemi. C'est la station nord du parc national de Virunga où cet ennemi agissait et où notre armée, à qui je rends hommage, a été capable de cerner l'ennemi et pratiquement de le contrer presque totalement. Et donc, j'ai hommage à l'armée et je reconnais le travail que notre armée a fait. Mais la question c'est de dire comment cette armée qui a été capable de faire du travail à un moment ne l'a pas été à un autre moment. Et donc c'est cela la question, et c'est la question troublante. Et c'est en cela que les différentes autorités ont défilé dans la ville de Beni et dans les territoires de Beni. Et des propositions ont été faites pour dire est-ce que ça ne peut pas être un problème de relâchement au niveau du commandement. Est-ce que ça ne peut pas être le manque de confiance à l'endroit de certains commandants. Et donc, c'est des choses de ce genre que j'ai attendu, puisque j'ai été du nombre de ceux qui ont visité cette région avec l'exécutif, et j'ai attendu la population en train de parler directement à certains membres de l'exécutif.
Merci,
ce qui
professeur.
Est c'est qu'on laisse des promesses localement, et on vit à Kinshasa au dehors.
Merci, professeur. Général Jean Bayo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
C'est Patrick Mbouli depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. La société civile de Beni doit au contraire inciter la population de Beni à collaborer avec les services de sécurité pour barrer la route aux tueurs en série dans cette partie du pays, au lieu de décréter des journées villes mortes qui n'aboutissent à rien. Et elle ne doit pas interdire la population de ne pas payer les taxes. Ça n'a aucun sens.
Alors, général, on n'a pas un représentant des FARDC dans l'émission. Je vais plutôt vous poser à vous la question. Quel est l'état de la collaboration entre la population, la société civile et la MONUSCO au niveau de Beni?
Écoutez, tout à l'heure, un interlocuteur a parlé de mariage entre la population et les FARDC. Je pense que c'est un mot très important. Et c'est une sorte de besoin lorsque l'on veut combattre tout ennemi, y compris un ennemi aussi redoutable, et je dirais aussi qui mute aussi dans la durée, tel qu'est ADF. Vous me posez la question, on va dire, de l'état de la relation entre la MONUSCO et les FARDC, et comme vous le comprenez, je place ça aussi dans le contexte de notre relation aussi avec la population. Il y a, comme vous le savez, un certain nombre de difficultés politiques actuellement que connaissent la MONUSCO et le gouvernement. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que dans la région de Beni, où effectivement nous sommes face à des défis sécuritaires extrêmement concrets, la relation que nous avons avec les forces de sécurité, en particulier les FARDC, est bonne. Nous travaillons ensemble et nous faisons le maximum de manière à apporter des réponses positives et concrètes aux défis auxquels nous sommes engagés. Aujourd'hui même, j'étais sur le terrain. Toute la journée, j'étais aussi bien avec les responsables militaires, également dans les lieux effectivement exposés à l'insécurité avec les FARDC. Nous faisons ça en permanence. Nous planifions nos opérations, nous préparons effectivement des réponses et des stratégies plus efficaces. Nous ne sommes pas encore au bout de ce processus, mais pour résumer, nous travaillons vraiment ensemble. La coordination entre les différents acteurs sécuritaires et l'appui que peut apporter la MONUSCO sont des facteurs extrêmement importants qui doivent être optimisés.
Général Jean Bayo, il y a Fabrice Siriwayo Mumbere qui nous écrit de Butembo, en Nord-Kivu, qui dit que le gouvernement et la MONUSCO tentent de mettre des centres des formations militaires tout au long de nos frontières afin de ne pas faciliter l'incursion des assaillants qui perturbent la quiétude des populations. Est-ce que vous pensez que c'est une solution envisageable?
Je pense qu'en fait toute solution doit être étudiée. Moi, je comprends que, avec l'histoire qu'a connue votre pays, il y a toujours des inquiétudes par rapport à ce qui vient de l'autre côté de la frontière. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y a maintenant une évolution, et je crois pouvoir dire, s'agissant du pays voisin de la région de Béni, que des relations existent, bien sûr, des niveaux de coopération existent, et je pense que c'est d'abord au niveau politique, au niveau diplomatique, mais aussi au niveau de l'action, on va dire, des différents services, que les premières réponses doivent être apportées. Surveiller une frontière d'un pays aussi grand que le vôtre, avec les défis aussi que apporte la géographie, avec des montagnes très importantes, très élevées, avec beaucoup de fleuves, avec aussi des forêts très denses, c'est un véritable défi. Je pense qu'on ne peut pas non plus dire qu'on va faire ça en déployant des gens partout. Mais d'abord, mon point, c'est qu'il faut d'abord faire un travail complémentaire de part et d'autre de la frontière. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des moyens qui sont adaptés effectivement à la géographie, mais aussi à la menace auxquelles on doit faire face. Les menaces sont extrêmement différentes. Il s'agit de trafic d'armes, il s'agit éventuellement d'infiltration de personnel recruté qui pourrait déstabiliser votre pays. Donc les services existent. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir renforcer les coopérations et également permettre à tous les services spécialisés d'opérer pleinement, si possible, de manière bilatérale.
Merci, Général Jean Bayo. Teddy Catalico, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Kabandani, je suis à Bukavu, au sud Kivu. Les journées qui montent, le refus de payer l'impôt peuvent résoudre en partie le problème de l'insécurité à Béni. Mais pour moi, en cette étape, la solution durable, c'est d'inviter le président de la République de venir ériger temporairement son quartier général à Béni jusqu'à ce que Béni retrouve sa quiétude d'antan.
Réaction Teddy Catalico, est-ce que ça pourrait être une solution pour vous?
Oui, en fait, l'auditeur ne fait que rejoindre nos préoccupations. C'est un cri d'alarme qu'on laisse, aux plus hautes autorités de ce pays pour qu'ils se fâchent particulièrement à la situation de la ville et du territoire de Béni. Donc, je pense que je serai d'accord avec lui qu'au niveau des états supérieurs, que ce soit au niveau du gouvernement central, que ce soit au niveau du gouvernement provincial, que ce soit au niveau de l'état-major général, nous estimons que chacun devrait voir à le mieux possible pour voir comment accompagner les populations de Béni pour quitter cet état des choses.
Teddy Catalico, on sait que récemment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, était sur place à Béni. Quelles sont les recommandations ou les résolutions qui ont été prises après que vous l'ayez rencontré?
Oui, en fait, à la rencontre avec le premier ministre, tout le cahier des charges a été remis à sa délégation. Et parmi les recommandations, on a d'abord noté la première où il fallait déclarer Béni comme une zone sinistrée et prendre à charge les populations qui sont abandonnées et où aujourd'hui on voit les trois quarts de la population du territoire de Béni être vidé et ces populations sont dirigées à des endroits dans la cité de Ouitcha et à ville de Béni. Deuxièmement, nous avons passé que il faut essayer de voir comment mobiliser les moyens et des troupes spécialisées pour la lutte contre le terrorisme. Mais aussi, nous avons pensé qu'au-delà des campagnes militaires, il convient de redoubler les efforts pour essayer de changer les modes opératoires. Donc, en voyant les modes opératoires actuels de l'ennemi, il faut adapter les modes opératoires, mais aussi élaborer une stratégie fondée sur des renseignements qui vise à neutraliser les réseaux de renseignements économiques et logistiques transfrontaliers de l'ennemi, mais aussi démanteler les réseaux des alliés au niveau interne et au niveau externe.
Teddy Catalico.
Aussi, nous avons demandé à ce qu'il y ait quand même des enquêtes qui soient diligentées. Et là, nous parlons des enquêtes indépendantes afin d'identifier les complices
Teddy Catalico
de l'ennemi sur ces massacres qui nous sommes en train de décrier il y a cela 8 mois.
Merci Teddy Catalico. Professeur Arsène Mouaka, vous avez suivi Teddy Catalico, Général Jean Bayot. Général Jean Bayot qui insistait sur le travail complémentaire qu'il faudrait faire de part et d'autre de la frontière congolaise, et il a ajouté qu'il faudrait renforcer les coopérations. De votre point de vue d'élu du peuple, avez-vous l'impression que les autres États collaborent sincèrement pour que la paix soit rétablie dans cette partie de la RDC?
Je pense qu'il y a eu un moment de paix dans cette région, ou d'accalmie, disons ça comme ça, ou un moment où l'armée a réussi à nous arracher une sécurité, c'est-à-dire dormir, se réveiller sans être égorgé. Et ce qui a été fait à ce moment-là doit être refait. Et donc, si on peut ajouter à cela la collaboration des États voisins, la collaboration de la MONUSCO et tout le reste, je ne serai pas contre, mais je crois à notre armée. Je crois que notre armée est capable, et elle est capable encore de nous redonner la joie comme elle nous a donné la joie à Rutshuru. Je pense que les dispositifs qui a été pris quand il y a eu les opérations contre les M23 doit être refait. L'armée doit être au point comme elle a été, avec un bon commandement en qui la population a confiance, à qui les éléments de l'armée ont confiance, pour nous redonner encore la joie d'être congolais. Ce qui se passe à Beni est très anormal. Il n'est pas normal que le gouvernement continue à se taire.
Alors, professeur, parce que vous pouvez déjà conclure parce que l'émission va toucher à sa fin.
Oui, je voudrais dire à tous les Congolais qui nous suivent qu'un drame est en train de se dérouler silencieusement à Beni, dans la ville et dans les territoires de Beni, et que nous tous, nous devons solidariser pour pousser notre gouvernement et l'accompagner à pouvoir mettre hors d'état de nuire. Et mettre hors d'état de nuire, d'être capable, quand on a égorgé des Congolais, de pourchasser l'ennemi, de l'attraper le sang à la main, pour que nous puissions identifier qui tue à l'Est. Sinon, le mystère dans les tueries de l'Est ne nous aide pas et ne met pas la population de Béniville et territoire à sécurité. Et toutes les provinces doivent solidariser avec la population de Béni, et nous invitons tous les dirigeants à tous les niveaux qu'ils puissent se mobiliser pour que ce drame puisse s'arrêter.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN, élu de Béni. On vous a pris à pied levé. Merci beaucoup, professeur. Vous avez remplacé Robert Ndombi, conseiller au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui avait donné son accord de principe, mais qui n'a pas participé à cette émission. Général Jean Bayot, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous? Pouvez-vous lancer un mot d'apaisement à cette population de la zone de Béni qui est en train de vous suivre en ce moment?
Oui, moi je voudrais parler à une population qui attend effectivement non pas des paroles mais des actes concrets. Elle attend aussi qu'effectivement ces crimes odieux cessent. Ce que je dois leur dire effectivement, c'est de croire que malgré effectivement ces crimes qui ont ressurgi et qui sont peut-être l'émanation d'un groupe qui se bat pour sa survie, ce n'est pas une fatalité. Nous avons les moyens, si nous joignons effectivement tous nos efforts, d'aller au bout effectivement de la neutralisation de ce groupe. Nous avons deux tâches majeures, la sécurité des populations, mais aussi la neutralisation militaire, ce qu'on appelle la campagne militaire contre ADF. Je pense qu'on est au cœur, à la croisée des chemins. C'est vraiment le moment d'unir nos efforts pour pouvoir effectuer simultanément ces deux opérations.
Merci.
Et vraiment neutraliser les chefs d'ADF, c'est aussi un besoin très important.
Merci Général Jean Bayot, commandant second des forces de la MONUSCO. Teddy Catalico, un mot en guise de conclusion. Juste un mot.
Oui, les mots de la fin, nous lançons un appel à tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Je comprends que le territoire de Beni est à proie à une menace militaire des types terroristes. Et à cela, nous appelons toutes les autres provinces à une solidarité nationale.
Merci Teddy Catalico. C'est par vous que nous terminons cette émission. Bonne suite des programmes. J'y arrive sur la radio de la paix. Au revoir.